Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette conférence qui est centrée sur la fin de vie. En 2016, 785 000 petits Français sont nés et 587 000 personnes sont décédées. Parmi elles, 70% sont mortes à l'hôpital ou en EHPAD. Vous savez qu'EHPAD sont des établissements d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes. Si 40% de ces personnes qui sont décédées sont mortes de vieillesse, sans trop de douleur ou d'inconfort, 60% d'entre elles connaissent une fin de vie difficile, avec des douleurs physiques, psychologiques, sociales, spirituelles, et perclus de symptômes pénibles de fin de vie, comme des nausées, des vomissements, une fatigue généralisée, un prurite parfois, c'est-à-dire une envie furieuse de se gratter. Une enquête, aujourd'hui déjà ancienne, commandée par l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, qui a été dénommée enquête MAO, acronyme pour « mourir à l'hôpital en France », objectivée que l'on meurt mal dans les hôpitaux français. Certes, les soins palliatifs, attachés à une prise en charge holistique, c'est-à-dire prenant en compte le malade dans sa globalité, ont permis des progrès indéniables dans la prise en charge de cette fin de vie. Mais alors qu'environ 350 000 personnes en auraient un besoin urgent, l'insuffisance des structures, l'insuffisance des moyens mis à disposition, mais aussi l'insuffisance de formation des médecins et du personnel soignant, font que seuls 40% des patients qui en auraient besoin bénéficient aujourd'hui de soins palliatifs. En même temps, il y a un véritable débat de société qui s'est installé en France. Les enquêtes d'opinion se succèdent et on mélange tout. Suicide assisté en fin de vie, comme en Suisse, interdit en France à ce jour, sont proposés dans le programme de notre président actuel. Dépénalisation conditionnelle de l'euthanasie comme au Benelux sont réclamées par des lobbies puissants en France. Enfin, avec beaucoup d'effets de manche, on propose une amélioration de la couverture nationale en soins palliatifs et on crée moins de 10 chaires d'enseignement de soins palliatifs en fac de médecine sur tout le territoire. Quelle est la situation actuelle de la fin de vie en France ? Nous avons la grande chance d'avoir avec nous cet après-midi deux personnes qui ont fait de ce travail en soins palliatifs leur vie professionnelle. À ma gauche, nous avons Pascal Alériane, qui est pasteur et aumônier depuis de nombreuses années au service de soins palliatifs de la clinique de la Toussaint à Strasbourg, le premier service de soins palliatifs créé à Strasbourg. Pascal intervient régulièrement lors de conférences et a rédigé à plusieurs reprises des contributions sur le sujet de l'accompagnement en soins palliatifs. Mon voisin de droite est le professeur Bernard Vary, professeur de soins palliatifs à la faculté de médecine de Nancy et chef de service de soins palliatifs du centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Bernard et moi, nous nous connaissons et nous sommes amis depuis notre internat à Thionville il y a plus de 40 ans. Gériatre de formation, Bernard a été un précurseur en créant le premier service de soins palliatifs de Lorraine. Et c'est aussi quelqu'un qui a mené un combat difficile avant que ce service puisse voir le jour. C'est aussi un intervenant passionné, orateur brillant, qui a à cœur de partager avec d'autres ce qui l'anime et tout ce qui peut contribuer à soulager les personnes en fin de vie. Et il participera volontiers, où il participe déjà actuellement volontiers au débat de société sur la fin de vie en France. Nous sommes heureux de pouvoir vous écouter tous deux. Bernard, la parole te revient.
Merci. Voilà. Maintenant, il faut que je cache mon ventre derrière un truc, que je mette les lunettes et tout. Enfin, ça devient difficile à certains âges. Voilà, alors concentrez-vous sur les diapos et ça sera parfait. Alors, il fallait faire un choix, parce que parler de soins palliatifs en une demi-heure, il faut faire des choix. Donc, il m'a paru intéressant de travailler sur la notion d'ambiguïté de la fin de vie, parce qu'on croit peut-être que c'est très clair, et à mon avis, ça ne l'est pas du tout, et particulièrement en ce moment. Tout le monde s'accorde pour dire qu'on a envie de mourir dans la dignité, etc. Mais on se rend compte qu'il y a plein de mots qui sortent, vous voyez, euthanasie, suicide assisté, accompagnement, soins palliatifs, et tout le monde est soucieux effectivement de, entre guillemets, bien mourir, ou de, au moins ne pas mal mourir. Cependant, il y a des ambiguïtés, et on voit notamment dans un thème qu'on reprendra, celui de la sédation, qu'on ne sait plus trop si on parle de vie, de fin de vie, de faire mourir, d'accompagner, de soigner, de tuer, etc. Et je me dis que ça vaut le coup d'essayer de lever quelques ambiguïtés, parce que, notamment pour nous chrétiens, ben, il faut peut-être abandonner justement la maîtrise et s'en remettre justement à la surprise, comme ça vient d'être illustré par ce morceau de musique, que je ne savais pas à l'avance. Hein. Alors, tout concept qui est enrichi par des mots à ne plus en finir, comme ça peut être le cas de la sédation aujourd'hui, me dit qu'il y a du flou dedans et peut-être de l'enfumage, de la manipulation, etc. Et je me dis qu'il faut au moins qu'on soit clair cet après-midi sur ce que c'est que l'euthanasie, ce que c'est que l'acharnement et ce que sont les soins palliatifs. Alors, évidemment, je suis obligé de faire vite et un peu caricatural, mais ça a moins l'avantage d'être clair peut-être. Hein. Alors l'euthanasie, on pourrait en parler des heures et des heures, mais on va faire simple. On va retenir aujourd'hui que si l'euthanasie en 1605, c'était effectivement faire en sorte que la vie soit douce, pacifiée, accompagnée, finalement les soins palliatifs d'aujourd'hui, l'euthanasie d'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse, c'est le geste délibéré qui provoque la mort. Bien sûr, pas dans le souci de tuer tout le monde, quand même, d'abréger a priori la souffrance, hein, heureusement, mais c'est quand même un geste, ça tombe pas du ciel, hein, ou d'ailleurs. C'est délibéré, j'ai décidé que j'allais provoquer la mort. Cette intention est claire et elle est irréversible. Je ne peux pas revenir en arrière. On en fait tout un plat, alors que c'est légalisé dans 3 pays au monde, ce qui veut dire que dans 200 autres, ça ne l'est pas. Mais on ne parle pas des 197, on parle des 3. Forcément, ça se vend mieux. Le suicide assisté, c'est un petit peu différent. Je dis un peu parce que pour moi, ça ne change pas grand-chose. Les jours qu'on tire sur les gens ou qu'on leur dit de tirer sur la gâchette vers eux, le résultat est quand même à peu près le même, sauf que c'est un peu plus focus. Je m'excuse, hein, même dans une église, d'avoir de temps en temps des petits rapages comme ça, mais je suis comme ça. Hein. Ça ne me paraît pas clair, ça me paraît effectivement tordu. Et en plus, on en fait même un commerce aujourd'hui, ce qui est grave. Hein. Vous savez, 5 ampoules de chlorure de potassium, ça ne va pas chercher loin en termes de budget. Par contre, quand vous allez dans une association comme Exit ensuite pour avoir une euthanasie, enfin suicide assisté, vous allez payer 5 000, 6 000, 7 000 euros. Pourquoi ? J'en sais rien. Enfin, si, mais il y a un business, hein, comme il y aurait du tourisme sexuel. On finit par avoir du tourisme dans ce domaine-là aussi. C'est un peu inquiétant. La sédation. Je suis obligé aujourd'hui de parler de plusieurs sédations. C'était très clair ce que c'était la sédation pour un soignant. C'était ce que aujourd'hui j'appelle la sédation palliative, c'est que les soins palliatifs ne peuvent pas prétendre répondre à tout et tout régler. C'est pas vrai. On a aussi nos échecs, nos petites zones d'ombre, et on ne peut pas se contenter de dire « moi, je suis contre l'euthanasie, et puis je me sauve ». Ben non, dans des situations difficiles où les soins palliatifs n'arrivent pas à répondre, sont effectivement en échec, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Et c'est là qu'on propose effectivement la sédation. C'est-à-dire que face à des souffrances qu'on n'arrive pas à calmer, qui sont donc incontrôlables, des symptômes réfractaires, ou ça peut être aussi une angoisse terrible chez un sujet jeune, etc., on va proposer, non pas de tuer, mais simplement d'endormir, plus ou moins profondément. Et donc, l'intention ici n'est pas de tuer, mais d'endormir. Quand je m'endors, je suis censé me réveiller. Donc, c'est réversible. Donc, l'intention, c'est soulager et c'est réversible. Vu comme ça, ça ne pose aucun souci. Nous, en soins palliatifs, on a toujours fait des sédations. Et même si elles peuvent aller jusqu'au décès, ce n'est pas le décès qu'on cherche. Ces malades sont de toute façon en train de mourir. Mais on veut qu'ils meurent correctement. Voilà. Donc l'attention à la réversibilité vous permet de faire la différence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et notamment parce que nos politiques sont quand même dans une ambiance de vouloir légaliser l'euthanasie, etc., mais comme ça la fout un petit peu mal aujourd'hui, on passe par les côtés, comme ça on rajoute des petits qualificatifs. Et au lieu de dire qu'on veut légaliser l'euthanasie, eh ben, on vous dit on va faire une sédation profonde, continue jusqu'au décès. Si vous n'avez pas compris que c'était une euthanasie déguisée, alors... Je pousse un peu loin le bouchon, mais bon, je fais comme ça. C'est vrai qu'on en fait, nous aussi, des sédations qui peuvent, effectivement, où le décès peut apparaître. Mais je ne cherche pas le décès. La maladie va tuer ce malade et je cherche à pacifier. Ce n'est pas la même chose que d'avoir l'intention d'emblée d'endormir et que le malade ne se réveillera plus jamais. C'est écrit d'emblée, pas de possibilité de réversion. Alors ça, pour moi, c'est un amalgame. Et ce qui s'est passé au Québec il y a 2-3 ans, c'est que justement, on fait l'amalgame. Moi, je veux bien qu'on soit pour l'euthanasie, ça ne me pose pas de souci. Si vous êtes clair sur ce que c'est, chacun fait ses choix. Hein. Par contre, ce que je trouve inadmissible, c'est de vouloir faire passer l'euthanasie. Hein. Alors, on parle justement de mort médicalement assistée, par exemple, hein, et d'en faire un amalgame en disant que ça fait partie des soins palliatifs. Non. Je sais bien qu'un jour, l'euthanasie sera légalisée en France, mais au moins que ce soit clair, qu'il n'y ait pas d'amalgame entre les soins palliatifs et l'euthanasie, et que les gens soient clairement informés et choisissent clairement. Et ça, justement, au Québec, ils ont un gros problème avec ça, parce qu'ils ont mis la mort médicalement assistée dans les soins palliatifs. Et les médecins savent où ils en sont, et la population non plus. Alors, il y a comme ça des nouveaux concepts qui arrivent, comme la lassitude de vie, la peine de vie. On a tous entendu parler de la peine de mort, hein, mais aujourd'hui on opère de la peine de vie. Tu vas quand même pas m'imposer de vivre, moi qui suis pas bien dans ma peau, etc. etc. On n'a pas à m'imposer, j'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie. Ok. Alors Jean Rostand, hein, c'est pas un palliatologue, hein, a écrit il y a quelques au début du siècle, enfin, donc que quand l'habitude serait prise de supprimer des monstres, de moindre retard ferait figure de monstruosité. De la suppression de l'horrible à celle de l'indésirable, il n'y a qu'un pas. Cette société, du coup, nettoyée, hein, cette société où la pitié, donc, enfin, assainie, où la société, où la pitié n'aurait plus d'emploi, cette société mériterait-elle encore d'être appelée, hein, société humaine ? Et c'est pas du délire, hein, puisque en Belgique, par exemple, voilà 3 affaires récentes, hein, je les invente pas, elles, hein, font partie des choses qui ont été mises sur la, même à la télé publique, etc. Vous avez par exemple Émile Pauwels, qui est un sportif renommé, etc., à son époque, qui aujourd'hui a 95 ans, et qui apprend qu'il a un cancer. Il n'en est que là, il n'en est pas du tout à la phase réfractaire où tous les symptômes ne sont pas jubilés, non, il apprend qu'il a un cancer, il dit « moi ». Grand sportif, un cancer, jamais. Et on le voit là, à la télé, un verre de champagne à la main, on fait l'euthanasie, ça ne pose pas de problème en Belgique. Nathan Verhels, 44 ans, lui, donc, est un transsexuel qui demande donc de changer de sexe. Il subit cette intervention chirurgicale, mais il n'en est pas content. Et il dit qu'effectivement, ça ne correspond pas du tout à ce qu'il souhaitait, etc., que la vie comme ça est invivable. Il demande l'euthanasie et elle est acceptée en octobre 2013 en Belgique. Puis comme, je ne sais pas ce qui arrive aux Belges en ce moment, mais il y a un souci chez eux, ils élargissent de plus en plus les mailles du filet, et donc on arrive à la légalisation donc de l'euthanasie en psychiatrie, mais si à chaque malade dépressif qui veut mourir, on n'offre rien d'autre que 50 poules de chlorure de potassium, je trouve ça très triste. Et puis comme ça ne suffit pas, ben voyez, une fois que la porte est ouverte, hein, et ben on a légalisé donc l'euthanasie chez les enfants, donc en Belgique, il y a eu un cas l'année dernière, etc. Bref, vous voyez qu'une fois que la petite monstruosité, comme on disait, on voudrait en faire une exception, ben les exceptions, c'est très difficile à définir, et les mailles du filet s'élargissent très vite. Hein. Alors, ceci étant, comme je vous le disais, on fait tout un plat d'euthanasie, mais ce n'est pas si fréquent que ça. Nous, qui suivons des centaines et des centaines de malades, et maintenant des milliers depuis plus de 20 ans, en soins palliatifs, je parle, hein, donc des malades en fin de vie, on a à peu près 2-3% de demandes d'euthanasie. Je ne dis pas qu'on n'en a pas, on en a peu, mais on n'en a jamais fait, on n'a jamais eu besoin de le faire. En fait, quand vous allez chercher derrière une demande d'euthanasie ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va si mal qu'il demande de mourir, hein. Et donc, dans 99% des cas, vous allez trouver deux choses. Je ne veux pas souffrir et je ne veux pas qu'on s'acharne. Et aujourd'hui, le problème dans une société moderne, qui a des moyens, etc., des hôpitaux, etc., c'est bien plus le problème de l'acharnement que le problème de l'euthanasie. Hein. Voilà. Donc, quand on répond effectivement à ces deux demandes, à ces deux souffrances, hein, effectivement, ben, du coup, les demandes d'euthanasie disparaissent. On a aujourd'hui la loi Leonetti. Alors, je sais bien, il faut parler de la loi Claeys-Leonetti qui a été revue, etc. Mais même si on parle de la loi Leonetti, elle nous permettait, avec le soin palliatif, de répondre à ces demandes. Alors, Jean-Gustave avait vu mon topo et puis il m'a dit, tiens, tu sais, on ne sait pas trop quel auditoire on va avoir, etc. Donc, ça serait peut-être bien que tu revoies juste un petit peu, de façon courte, qu'est-ce que c'est que cette loi Leonetti et qu'est-ce qu'on y trouve. Si vous voulez, l'idée, c'est que la personne puisse dire ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Hein, et donc, pour les personnes qui peuvent s'exprimer, il y a deux outils, je dirais simplement, qui nous permettent de le faire. C'est de désigner une personne de confiance et d'écrire des directives anticipées. Alors, sans aller dans le détail, la personne de confiance, ce n'est pas forcément la personne qui est la personne à prévenir ou celle qui est toujours présente ou le conjoint forcément, etc. C'est une personne majeure hein, qui peut être désignée, effectivement. Le malade peut désigner, il n'a pas l'obligation de désigner. Nous, on doit simplement lui dire, vous pourriez, si vous le souhaitez, hein, donc désigner une personne de confiance. Cette personne ne décidera pas, hein, elle sera consultée, elle sera le témoin du malade. Il faudrait parler aussi très longtemps, mais on n'a pas le temps là, hein, mais comprenez bien que ce n'est pas elle qui va décider, c'est elle qui va témoigner lorsque le malade ne pourra plus s'exprimer, hein, et donc le médecin pourra tenir compte effectivement de cet avis. Ça doit être fait dans des règles très strictes, hein, par écrit, co-signé par la personne de confiance, c'est révisable à tout moment et révocable à tout moment. Les directives anticipées, si vous voulez, c'est réfléchir sur ce que je souhaiterais et surtout ce que je ne souhaiterais pas qu'on me fasse subir en fin de vie. Et il est possible qu'un jour je perde ma conscience par un coma, un accident vasculaire cérébral, une démence, etc. Et je ne pourrai plus dire ce que je veux et ce que je ne veux pas. Donc je prévois, avant que cela m'arrive, de donner des directives anticipées. C'est surtout pour la poursuite, la limitation, l'arrêt des traitements, si vous voulez, pour qu'il n'y ait pas justement d'acharnement, notamment. Hein, c'est une manière d'y répondre. C'est révisable et révocable à tout moment, heureusement. Ça s'impose au médecin, mais il n'est pas obligé forcément de faire, parce que si ce n'est pas en adéquation avec la situation, les trois situations belges que je vous ai données tout à l'heure nous permettraient, en tant que médecin, de dire non, hein, par exemple. Par contre, si je décide de ne pas les suivre, je ne peux pas juste décider à titre personnel, je dois demander au minimum un deuxième médecin, faire ce qu'on appelle une procédure collégiale, qui soit bien lisible, et la nouvelle loi Claeys-Leonetti est en train de faire un modèle type, si vous voulez, de proposer un modèle type que l'on trouve sur Internet, tout simplement, hein, des directives anticipées, et il y aura un registre national pour qu'on puisse y recourir. C'est un décret qui n'est pas tout à fait sorti. Il nous faut parler comme un petit peu de soins palliatifs. Hein. Qu'est-ce que c'est que dans tout ça, les soins palliatifs? D'abord, c'est des soins. Les gens confondent des fois avec l'accompagnement. On fait de l'accompagnement, mais on fait des soins et de l'accompagnement. Ce sont des soins actifs, faits par des soignants, par des médecins, des infirmières, des ergothérapeutes, des assistantes sociales, tout ce que vous voulez, etc. C'est de la médecine. Hein. Ce n'est pas juste du compassionnel, etc. C'est une médecine. Et Jean-Gustave disait, ben, maintenant, on a même des professeurs, etc. Si vous voulez, elle prend sa part vraiment dans la médecine moderne, une part entière. Elle s'adresse bien sûr à des malades qui sont en phase évoluée ou terminale d'une maladie potentiellement mortelle. On est vraiment sur la fin de vie. Hein. Les soins sont axés non pas sur la durée, sur la quantité, mais bien sûr sur le confort. Et ils sont globaux, c'est-à-dire confort physique, mais aussi psychique, spirituel, socio-familial, etc. On considère les malades comme des vivants, hein, et non pas comme des mourants. Hein. Et la mort n'est pas un échec pour nous, sauf quand ça se passe mal. Mais je veux dire, la mort est quand même quelque chose d'absolument prévisible et normal. Il y a une chose qui va nous arriver à tous, c'est bien celle-là. Hein. Ce n'est pas une surprise. Hein. On ne va par contre pas chercher à hâter la mort, c'est l'euthanasie, provoquer la mort avant le terme naturel. On ne va pas chercher non plus à la retarder, c'est l'acharnement ou les acharnements, mais on va s'arranger pour que le terme naturel soit respecté et qu'on offre la meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul, ça ne relève pas d'un médecin, ça ne relève pas d'une infirmière, ça relève d'une équipe vraiment riche, pluriprofessionnelle, interdisciplinaire si vous voulez. Ça ne s'adresse pas qu'aux malades, ça s'adresse aussi à son environnement, donc bien sûr on pense à la famille, mais ça peut être aussi les soignants qu'il faut des fois aussi un peu supporter, effectivement, au sens support. Et puis, les soins palliatifs, ça se fait avant le décès, mais aussi il y a des choses à faire au moment du décès, il y a des choses à faire après le décès. C'est tout, par exemple, l'histoire de suivi de deuil. Tout le monde ne va pas faire un deuil pathologique, mais il y a des gens qui vont avoir beaucoup de difficultés, dans des situations particulières, des jeunes enfants, etc. Et donc, ça fait partie aussi des soins palliatifs. Hein. Voilà. Alors, ces ambiguïtés qu'il faut lever, elles sont multiples. Il y a l'ambiguïté des politiques. Hein. En son temps, Nicolas Sarkozy, d'abord, voulait légaliser l'euthanasie. Il a vécu des choses... C'est souvent par le vécu qu'on change d'avis. Et il a effectivement été amené à accompagné à la maison Jeanne Garnier à Paris, justement un de ses amis proches, et il s'est rendu compte de ce que c'était les soins palliatifs, et du coup, il était plutôt pour ça. François Hollande est plus ambigu, mais ça vous l'aurez compris, il a toujours été comme ça, alors, ça ne peut pas être autrement. Je m'excuse, mais dans sa proposition 21 du programme, il s'arrange pour que la phrase qu'il nous pond aille aussi bien aux gens qui sont pro-euthanasie qu'aux gens qui sont pro-soins palliatifs. Comme ça, débrouillez-vous. Donc c'est un peu tordu comme manière de penser. D'autres sont beaucoup plus clairs, et j'ai repris tout bêtement dans les programmes politiques actuels. Vous avez des gens qui sont clairement pour l'euthanasie, qui font tout pour que ce soit légalisé. Vous avez des gens clairement contre l'euthanasie, etc. Et c'est assez inquiétant pour moi de voir que c'est une histoire de gauche et de droite, a priori. Je pensais que ça serait un peu plus large que ça, mais c'est assez rigolo, comme la gauche, a priori, est pour l'euthanasie, et la droite contre. Bref. D'autres, bien sûr, se mettent entre les deux, restent ambivalents et s'arrangent pour que ce ne soit pas trop clair. C'est le cas notamment de notre ministre actuelle, Marisol Touraine, qui, en public, annonce les soins palliatifs et, par-dessous, est pro-euthanasie à fond la caisse. On les connaît, je sais de quoi je parle quand je dis ça. Ce n'est pas des propos en l'air, c'est des gens qu'on côtoie. Et donc, voilà le genre de choses qui nous inquiètent beaucoup. Dans la loi Claeys-Leonetti, la revue donc l'année dernière, créant donc de nouveaux droits en faveur des malades en fin de vie, Marisol Touraine a tout de suite dit, je vous préviens tout de suite, c'est transitoire. Je vous le lis autrement, puisque je n'arrive pas à faire légaliser l'euthanasie d'emblée, je vais passer par la petite porte, et on va vous faire cette sédation profonde, continue jusqu'au décès, parce que ça c'est de la sédation, donc c'est des soins palliatifs. En fait, c'est une manière de se rapprocher. Il ne reste plus grand-chose de l'euthanasie pour qu'après, il n'y ait plus grand-chose à gratter pour que ça bascule. Bon, vous n'êtes pas obligé de partager mes idées du tout. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Après, on peut avoir des idées inverses, mais c'est quand même quelque chose qui, avec nos amis paléontologues, c'est ce qu'on vit actuellement. C'est ce qu'on voit. Donc, de l'ambiguïté, effectivement, face au mal mourir, donc il y a l'expérience d'une souffrance quand même existentielle profonde et complexe. C'est Emmanuel Hirsch qui nous dit « Notre souci de dignité va devoir se satisfaire maintenant » d'un traitement à visée antalgique et sédative. Un petit coup de morphine, un petit coup d'hypnovel, ça vous endort et tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Si c'est ça, accompagner et soigner, prendre soin, alors ça devient très grave. Il ne faut surtout pas que nos unités de soins palliatifs deviennent des unités de soins sédatifs. Bon, je m'excuse pour les politiques, mais il faut qu'ils assument. C'est pas moi qui écrit ça, c'est eux. Donc Marisol Touraine n'a rien trouvé de mieux à faire que nommer docteur Véronique Fournier, qui fait de l'éthique à distance un petit peu, qui à mon avis jamais vu un malade en fin de vie, mais on l'a nommée. C'est très embêtant, on a dissous l'Observatoire national de la fin de vie, qui travaillait très bien, pour en faire une nouvelle instance et surtout nommer Véronique Fournier, dont les idées sont pro-euthanasie claires et nettes, pour la faire courte. Qu'est-ce qu'elle dit, Véronique Fournier ? Elle dit « Il faudrait que l'euthanasie devienne le soin palliatif ultime. » Vous rendez compte ce que ça veut dire ? L'amalgame complet, et ça veut même dire qu'on n'aura bientôt plus besoin de soins palliatifs, on ira directement à l'euthanasie, et ça sera réglé. Par rapport à la gériatrie, ça aussi c'est affolant d'entendre ça, il faut réinterroger le respect de la vie des personnes âgées démentes en institution. Elles coûtent trop cher, elles puent, elles sont incontinentes, etc. À quoi ça sert ? Voilà où on en est. Mais c'est horrible, c'est des dérives qui sont affolantes. Et en fait, c'est quoi ça ? C'est le fruit de l'argent roi, tout simplement. Les hôpitaux sont des entreprises qui doivent être bénéfiques, et donc pour que le budget soit équilibré, faisons ce qu'il faut. Et il y a un risque, à mon avis, d'euthanasie économique. Alors ça ne sera jamais servi aussi clairement que je vous le dis là, mais... qu'est-ce que c'est d'autre que ces propos qui nous disent qu'on doit se réinterroger sur la dignité, le respect des personnes âgées démentes, qui coûtent trop cher à la société. Bon, Jean-Gustave le disait tout à l'heure, donc il ne faut pas que je prenne trop de temps. Avec ce qu'on a comme unité de soins palliatifs, d'équipe mobile, de structures spécialisées, aujourd'hui, on ne répond qu'à la moitié des demandes. Autrement dit, l'accessibilité aux soins palliatifs n'est pas encore excellente dans notre pays. C'est sûr que si je fais la photo, il y a 20-30 ans, il n'y avait rien, qu'aujourd'hui, on a fait la moitié du chemin, mais ça veut dire qu'il reste encore la moitié du chemin à faire. Donc, on ne peut pas dire que ce soit réglé. Et le problème du manque d'accessibilité aux soins palliatifs explique probablement aussi les envies d'euthanasie et de sédation mal comprises. Parce que je comprends très bien qu'un malade qui n'est pas bien soigné, qui n'est pas bien accompagné, qui n'est pas soulagé, puisse avoir envie d'en finir. Mais le problème, c'est qu'au lieu de lui offrir l'euthanasie, je préférais qu'on lui offre les soins palliatifs. Mais puisqu'on n'offre pas les soins palliatifs à tout le monde, on comprend que ça se passe mal dans certains cas. Bon, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est comme ça. Les soignants ne sont pas toujours clairs non plus sur la fin de vie, il ne faut pas croire. Hein. Il y a des transgressions, et pour moi, une transgression, c'est une trahison. Il n'y a pas à avoir de petits arrangements avec la fin de vie. Hein. Ou on prend soin, ou on tue, mais les deux ne sont pas compatibles. La seringue qui soigne, ça ne peut pas être la seringue qui tue. Enfin, pour moi. Hein. Pour d'autres, ça, a priori, c'est possible. Donc, vous l'aurez compris, euthanasie et soins palliatifs, pour moi, c'est totalement incompatible. Hein, et on n'a pas à déserter la personne malade en fin de vie. C'est une médecine récente, hein, ça a une cinquantaine d'années, enfin 60 pour l'Angleterre, etc. Là, il ne faut pas que j'aille trop vite, mais c'est quelque chose de récent et qui est intégré donc maintenant dans la médecine, hein, grâce notamment à deux femmes, Cicely Saunders et à Elisabeth Kubler-Ross. Je ne peux pas développer maintenant, donc j'avance. Moi, j'ai, bon, vous aurez compris que je suis un peu caricatural, moi, ça d'accord, c'est comme ça. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de mourant. Je sais ce que c'est qu'un vivant, je sais ce que c'est qu'un mort, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un mourant. Je n'ai pas du tout envie qu'on crée une catégorie entre les vivants et les morts. Et pour moi, tant qu'on n'est pas mort, on est vivant. Qu'il me reste un mois, une semaine, une minute, une seconde, faisons-en une minute, une seconde de vie. Hein. C'est pas que des mots, hein. Je vais vous donner le petit témoignage de Denis Homburger. C'est un patient qui nous a fait clairement une demande d'euthanasie. Il a une sclérose en plaques depuis l'âge de 17 ans. Ça fait maintenant, il doit avoir 40-45 ans au moment où on le voit. Sa vie se résume à regarder le plafond. Hein. Et donc, effectivement, il n'en peut plus, il demande l'euthanasie. Je comprends cette demande. Mais derrière sa demande, je vais chercher qu'est-ce qui se passe, quelles sont les souffrances. Est-ce qu'on n'a rien d'autre à lui proposer que de regarder le plafond? Et quand on regarde tout ce qu'on peut lui proposer, ce qu'on a fait avec notre équipe, etc., ben ce jeune homme est toujours vivant aujourd'hui. Hein, et il a voulu témoigner dans les congrès qu'on fait, etc., mais on trouvait ça un peu trop chaud. Donc on a juste fait un petit témoignage filmé. Ce n'est pas du professionnel, hein, c'est avec un petit truc, mais on va... Alors, il est toujours vivant. Hein. Entre-temps, il a perdu son frère, ses parents, mais lui, il est toujours dans la vie. Alors, ceci étant, on ne va pas tous mourir en unité de soins palliatifs, heureusement. Hein. On peut aussi vieillir de mort naturelle, de vieillesse, rassasié de jour, comme Mathusalem. Hein. Mais nous, en tant que soignants, effectivement, on est confrontés à un autre modèle. Hein, et donc, souvent, effectivement, on peut être amené, dans les unités de soins palliatifs en particulier, à rencontrer des malades qui sont encore douloureux, qui sont dans la dépendance, la solitude, la souffrance physique, psychologique, sociale, familiale, existentielle, spirituelle. Et c'est là qu'effectivement interviennent les soins palliatifs pour essayer de pacifier, si vous voulez, cette fin de vie, en reconnaissant le malade, non pas comme on peut encore l'entendre, comme un légume ou une plante verte, mais comme un homme qui reste digne. Est-ce qu'on serait moins humain parce que physiquement ou psychiquement diminué? Est-ce qu'il y aurait comme ça, alors je pense que vous ne voyez pas trop bien à cause de la lumière, mais rassurez-vous, c'est un montage. Il n'y a pas de plantes vertes dans les hôpitaux. Hein. En principe, il n'y a que des malades. Hein. Il n'y a pas des niveaux de dignité différents. Qu'on soit dépendant, qu'on soit dans le coma, etc., on est toujours digne de vivre. Il n'y a pas d'ailleurs d'instrument, hein, comme le dit Jean-Marie Gomas, il n'y a pas de dignitomètre qui me permettrait de mesurer la dignité des gens. Hein. Donc, heureusement, hein, quand on me dit « Évarie, j'ai un légume ou j'ai une plante verte, t'as pas un lit ?» Je dis « Du coup, t'es pas chez Jardiland. Hein. » M'excuse, mais bon. Hein. Soigner ou jardiner, il faut choisir. Si la dignité peut disparaître, c'est pas le malade qui la perd. Si le soignant n'est plus capable de voir dans ce malade autre chose qu'une plante verte ou un légume, là je me pose des questions sur le soignant, pas sur le malade. Lui, il n'est pas disqualifié, le malade. Hein. Ce qui peut être indigne, par contre, c'est les conditions de soins qu'on lui donne, plus exactement qu'on ne lui donne pas. Et comme je vous l'ai dit, un malade sur deux qui relève de soins palliatifs n'a pas de soins palliatifs. Dans ces conditions, les conditions peuvent être mauvaises, peuvent être indignes, effectivement. Mais ce n'est pas le malade qui est indigne, c'est les conditions de soins, de manque de soins qui sont indignes. Ce n'est pas la même chose. Et il ne faut donc pas confondre, si vous voulez, la dépendance hein, et la déchéance. Hein, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Donc tout malade, quel que soit son état, effectivement, reste une personne humaine qui peut être donc respectée et soignée. Je l'ai un petit peu évoqué au début, est-ce que la fin de vie, c'est un fait? Il est mort à 14h15, de mort naturelle, ça passe. Si à 14h12, il y avait 5 ampoules de KCL, c'est plus la même chose. Toujours est-il que c'est un fait à ce moment-là. Hein, j'ai décidé que, etc. Là, je suis dans la maîtrise. Et ça, c'est le problème de la médecine d'aujourd'hui. Hein, les médecins voudraient maîtriser aussi, et le font de temps en temps, ben justement quand on fait de l'euthanasie, la fin de vie. Alors que les soins palliatifs, ça va être tout l'inverse. On va être dans la déprise, dans la surprise. On va se laisser voir. Et vous croyez peut-être qu'un malade en fin de vie, tout est écrit à l'avance et tout, mais c'est tout faux. C'est là que la vie, quand elle est très fragile, elle va vous étonner à tous les coups. Celui qui devait mourir demain sera là dans 3 mois, celui qui devait... Enfin, etc., etc. On n'est pas maître de ça. Et tant mieux. Hein. Mais si on se prend pour Dieu, alors effectivement, on peut effectivement devenir le maître de la mort, de la science, etc. Mais là, on est clairement dans l'euthanasie. Donc laissons-nous surprendre et les choses seront encore effectivement belles. Alors, il y a des dérives. Et ce qui m'inquiète chez les soignants, c'est qu'il y a même des grands noms de la médecine qui s'y mettent. Hein. Que des soignants soient pour l'euthanasie, c'est une chose, mais que des palliatologues, c'est-à-dire des médecins, des soignants, spécialisés en soins palliatifs, prônent l'euthanasie et la pratique, pour moi, c'est de la transgression, c'est de l'impertinence. Et on a eu un exemple, par exemple, dans nos équipes, j'allais dire, hein, etc. Bon, je crois que le temps passe et je vais peut-être passer là-dessus, hein, mais c'était l'idée de vous dire que des gens qui sont, par exemple, responsables de services d'oncologie, de DU de soins palliatifs, etc., arrivent à dériver en disant qu'il faut maintenant avancer, il faut que les prises en charge palliatives s'ouvrent à l'euthanasie, etc., etc. Bref, moi je pense, bon, je vais passer ça parce que je crois que le temps presse un petit peu, et donc... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on soit clair. Soins palliatifs, euthanasie, c'est incompatible. Et donc, lorsqu'il y a des gens chez nous qui transgressent, lorsqu'il y a des politiques qui transgressent, lorsqu'il y a des religieux qui transgressent, ben, je crois qu'il faut oser le dire, hein, et le dénoncer et l'écarter. J'ai été amené effectivement à faire ça il n'y a pas longtemps. Bon, il se trouve que je suis président de la Fédération francophone de soins palliatifs, et puis que donc les présidents de sociétés nationales vous envoient des représentants, et la Belgique nous a envoyé le docteur Corinne Van Host, qui est un médecin catholique pratiquant, mais il ne pratique pas que le catholicisme, c'est une femme, mais pratique aussi l'euthanasie. Et donc, j'ai estimé, en tant que président de la fédération, qu'il fallait être clair et dire non. Alors, on m'a dit, bon, je comprends sur la personne, quoique, etc. Mais j'ai dit, ça va plus loin que ça. Si la fédération wallonne de soins palliatifs cautionne ce genre de choses, elle n'a pas sa place. Bon, bah, puisque vous êtes un vieux coucou qui pensait de façon encore archaïque, etc., tant pis, voilà. Ben non, je suis désolé, il faut être clair sur ce genre de choses, et on ne l'est pas toujours. Hein. Il y a aussi des ambiguïtés dans le monde des religieux. Hein. Les religions n'abordent pas la fin de vie de toute façon, pas tout à fait de la même façon. Certaines sont plus libérales que d'autres, etc. Et donc, pour juste avoir un petit aperçu, on voit que dans le judaïsme et dans l'islam, il y a une opposition absolue à l'euthanasie et on prône le recours aux soins palliatifs. Dans le bouddhisme, il y a une petite déjà notion différente, puisqu'on écarte un peu les mailles du filet, puisqu'on accepte l'euthanasie d'exception. Tout le problème va être de définir l'exception. Dans le catholicisme, il y a donc une opposition absolue à l'euthanasie. On est pour les soins palliatifs. Par contre, moi, c'est de l'autre côté que je pense qu'il y a un risque, c'est dans le risque d'acharnement. De l'affaire Vincent Lambert, par exemple, vous avez un exemple où, à vouloir ne pas tuer, ne pas accepter la mort, des fois, on va dans l'acharnement. C'est complexe, mais voilà. Et le protestantisme, vous le savez bien, prône le libre examen, etc., clairement quand même contre l'euthanasie, pour les soins palliatifs, mais là aussi, c'est dans les textes officiels du protestantisme, l'assistance médicalisée doit rester une transgression. Alors moi, ça, c'est le genre de truc moi, qui me gêne toujours, parce que c'est comme ça que ça commence, mais bon, après chacun pour soi. Voilà des exemples, par exemple, je vous l'ai dit, hein, de personnes clairement identifiées sur le plan religieux. Hein, le père Ringlet, professeur d'Inti, qui est un père donc, catholique, et qui lui dit que, ben, de toute façon, l'euthanasie légalisée, ben, moi j'accompagne effectivement sans problème. Hein, donc l'accompagnement spirituel jusqu'à l'euthanasie, ça ne lui pose pas de problème. Pire, Corinne Van Host, vous avez compris que je ne la mets pas beaucoup, mais ceci étant, je lui dis en face aussi, rassurez-vous. Hein, et donc, je trouve assez aberrant et paradoxal pour moi de se dire médecin catholique pratiquant l'euthanasie. Ça me, personnellement, je ne vois pas comment on fait. Ouais. Bien, bon. Ce qui est légal en Belgique, c'est légal l'euthanasie. Est-ce que ce qui est légal est forcément moral? Je ne pense pas. Hein. La Bible, elle est claire quand même, hein. Tu ne tueras point. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, effectivement, j'ai plus tendance à me baser sur la Bible que sur les religions. Mais c'est un choix personnel. Pour conclure, malgré tout, je pense qu'il ne faut pas rester dans des... se contenter de positions figées. Je suis contre, je suis pour, etc. Dans l'intervention d'avant, il y avait effectivement, les politiques nous disaient effectivement que c'est important de laisser s'exprimer les différents courants pensés. Je le pense aussi. Donc, il ne faut pas juste dire je suis contre l'euthanasie. Je crois qu'il faut savoir ce que c'est l'euthanasie, ce que c'est le suicide assisté, ce que c'est l'acharnement, etc., etc. Et après, on peut choisir. Mais il ne faut pas se contenter de positions juste figées. Donc, connaître les différents concepts, c'est ce que j'ai essayé de faire. Lever les ambiguïtés, je vous les ai au moins pointées, et pour moi, donc, ne pas accepter amalgame et dérive. Voilà, donc j'ai juste une petite dernière diapo en guise un petit peu de clin d'œil. Je dirais, si je devais écrire, par exemple, les directives anticipées, je dirais peut-être que personne n'ose toucher à mon sablier, au sablier de ma vie, que personne n'ose se prendre pour Dieu et décider du moment où ma vie terrestre me sera enlevée. Me façonner pour me faire passer la porte étroite, ouverte sur l'éternité, je n'ai pas envie de louper ça. Je ne veux pas non plus qu'on me sédate à tout prix, mais qu'on préserve au mieux mes capacités pour pouvoir le suivre, le choisir, lâcher prise, me laisser porter. Et puis si je dois nommer une personne de confiance, ben, autant, tant qu'à faire, je nomme mieux, maître du monde et de ma vie, personne de confiance. Je sais bien que ça peut poser quelques problèmes aux législateurs, et c'était juste un clin d'œil. Et puis, je ne vais pas vous la faire parce que le temps est compté. Et puis, c'est vrai qu'en milieu évangélique, ce chant est connu, en milieu protestant moins. Donc, je m'étais dit que je vais les faire chanter. On va peut-être se contenter de donner juste le nom du chant qui s'appelait, effectivement, ou les paroles, si vous l'importante, c'était pour moi, « Tu donnes et tu reprends ». C'est dans Job 1, 21. « La vie m'est donnée, je n'ai pas choisi, etc. On me l'a donnée et je souhaite ne pas choisir non plus quand est-ce que Dieu la reprendra. C'est lui qui décidera et pas moi. » C'est une prise de position personnelle, mais voilà. Je m'arrêterai là et...
Merci beaucoup Bernard. Et je passe la parole à Pascal.
Oui. Voilà, dans la continuité de Bernard, je vous propose donc un point de vue d'aumônier. Tout à l'heure, j'ai été présentée comme l'aumônière. Excusez-moi, je voudrais mettre les choses au point. Je déteste ce mot. Pour désigner le travail que je fais, je ne suis pas aumônière, je suis aumônier. L'aumônière, c'est une bourse dans laquelle on met des sous ou alors une pâtisserie. En général, je ne me fais pas croquer comme ça, donc je voudrais quand même qu'on m'appelle aumônier. Voilà. Alors, j'ai intitulé mon propos « Soins palliatifs, double point, maîtriser la fin de vie ?» Point d'interrogation. Je suis un peu dans la continuité de ce que Bernard nous a présenté juste à l'instant. Et ce que je vous propose... C'est à travers trois exemples d'accompagnement de patients en fin de vie, donc à la clinique de la Toussaint, où je travaille, où j'exerce mon ministère d'aumônie. Et par les questions qu'ils ont suscitées en moi, ces accompagnements, je propose quelques points de réflexion sur la fin de vie. Et je vous fais part aussi de ma conception d'aumônier, de l'accompagnement, avec les découvertes que j'ai pu y faire. Une petite précision, la clinique de la Toussaint est une petite clinique au centre de Strasbourg appartenant au groupe hospitalier Saint-Vincent. Et c'est une clinique qui reçoit différents services, surtout en pôle gériatrique. Et nous avons donc une unité de soins palliatifs de 8 lits et un service de soins de suite et de réadaptation en soins palliatifs d'une dizaine de lits. Nous allons fêter cette année d'ailleurs les 20 ans de la création de l'unité avec le docteur Véronique Vignon qui était donc la fondatrice de ce service. Alors je vous propose la première histoire, l'histoire de Monsieur B. Je vous emmène à la clinique. Il s'agit d'un patient entre 55 et 60 ans, admis à l'USP suite à un problème cérébral qui l'a mené au coma, les yeux ouverts. Je crois que ça s'appelle le coma vigile, si je ne me trompe pas. Il est aréactif, il n'a plus de réaction à la stimulation. Et la plupart du temps, il est dans l'impossibilité de communiquer oralement. Et je dirais que ce temps de communication est devenu de moins en moins important, jusqu'à ne plus pouvoir communiquer du tout lorsqu'il arrive à l'unité. Sa femme... présente quotidiennement au chevet de son mari, mais devenue proche au fil des mois. Ce couple s'est juré de ne pas permettre que l'autre reste dans un état végétatif si la situation devait se présenter. Ils se sont prêtés serment. Madame B, elle me dit toute son ambivalence. À la fois vouloir respecter cette promesse qu'elle a faite à son mari un jour, et à la fois le garder encore un peu auprès d'elle, vivant. Au bout d'un temps, la famille exprime une demande d'euthanasie auprès de l'équipe soignante, vu le caractère insupportable et la fidélité, le caractère insupportable de cette situation, bien sûr, et la fidélité qu'elle pense devoir à Monsieur B. L'équipe est amenée à se réunir et à porter une réflexion éthique sur la suite à donner à cette demande. Et la décision a été prise de poursuivre les soins à minima et de soutenir la famille jusqu'au décès naturel du patient. Donc, pas d'euthanasie. Un jour, alors que j'étais au chevet du patient, l'épouse lui dit « N'est-ce pas, B ? Nous allons t'aider. » J'ai vu les yeux de Monsieur B d'un bleu profond se déplacer du coin de la chambre qu'il s'était habitué à fixer vers le regard de sa femme, son visage. Aucune émotion ne trahissait ce regard, mais il était intense. Et pour moi, ce fut un choc, peut-être un des chocs les plus violents au cours de mes accompagnements que j'ai pu réaliser. Et il m'a mené à un questionnement que je voudrais vous livrer maintenant. A-t-il perçu les propos de son épouse ? Qui sait s'il souhaite mourir aujourd'hui ? Ce qui a prévalu à un moment de sa vie, avec son épouse, donc ce serment qu'ils se sont fait, cela vaut-il encore ici et maintenant ? Le fait que le patient ait vécu de longs mois dans cette unité de soins palliatifs, cela veut-il dire qu'il souhaitait vivre ? Dans la suite, le patient a encore vécu quelques semaines, puis il est décédé. La famille, elle, dans son impuissance et son ambivalence, a pris de plein fouet la violence de cette fin de vie. La déception de n'avoir pas pu obtenir l'euthanasie attendue. Des clivages sont apparus entre les différents membres de la famille. Alors peut-être a-t-elle pu cheminer, de faire un bout de chemin dont je ne saurais rien et que je ne pourrais pas mesurer ? Peut-être. En tous les cas, cette expérience m'a laissée interrogative. Histoire de Monsieur J. Monsieur J est un homme fin soixantaine, admis à l'USP pour un cancer terminal, chef d'entreprise, un homme d'affaires, dynamique, généreux, volontaire, préoccupé par son travail, domaine qu'il maîtrise parfaitement. La maladie grave lui a été annoncée et ce fut pour lui un tel choc qu'il est arrivé au service avec une demande de sédation profonde dont on a parlé tout à l'heure et permanente. Il s'était entretenu avec son médecin généraliste et savait exactement comment présenter sa demande au service de soins palliatifs. Il a expliqué au médecin de l'USP qu'il a reçu le jour de son admission qu'il lui était insupportable de se voir décliner de jour en jour et qu'il ne pouvait accepter sa dépendance du fait de sa maladie. D'un commun accord, le médecin et lui ont décidé de recourir à une sédation légère, intermittente, pour permettre à M. J de trouver du repos et de calmer son angoisse. Puis, on le réveillerait régulièrement pour faire le point avec lui et voir où il en est et comment il va. Ce protocole a été mis en place et assez vite, au bout de un ou deux jours, M. J a pu retrouver un certain calme. Il a pu accueillir sa situation de façon nouvelle et s'apaiser pour décéder ensuite. Pour moi, à nouveau, un questionnement a surgi. Si l'équipe avait directement donné accès à la demande du patient à son admission, il aurait probablement été privé de cette étape essentielle de sa vie. À quel titre ? La famille a elle-même pu profiter de cet apaisement qu'a vécu M. J. Quel deuil aurait-elle vécu dans le cas contraire ? Troisième histoire. Monsieur T est âgé de 53 ans. Tout d'abord admis en unité soins palliatifs, son état se stabilise, il est atteint d'un cancer lui aussi, mais son état se stabilise quand même pour lui permettre de changer de service et d'aller au SSR, soins palliatifs. Ce lieu est un lieu où nous accueillons des patients qui sont dans une situation palliative, c'est-à-dire ne peuvent plus bénéficier de traitements curatifs, mais qui peuvent encore espérer quelques temps de vie, et pendant ce temps, nous les accompagnons dans leurs projets. Voilà l'objectif de ce service. Nous avons l'occasion d'échanger, et moi et ce patient, et je découvre un homme plein de sensibilité, avec une vie mouvementée et riche. Et il me commente ses peintures qu'il a réalisées et choisies pour orner les murs de sa chambre d'hôpital. Elles lui permettent de s'apaiser. Il traverse des moments houleux à chaque fois que son état s'aggrave et à ce moment-là, il manifeste une grande angoisse. Et quand ces moments surgissent, il dit sa détresse et son souhait de mettre fin à ses jours, mais n'en fait jamais une demande explicite à ceux qui le soignent. Durant un week-end, il a la visite d'une amie de longue date et il prend alors une grande décision. Il veut se marier avec elle. Projet qu'il avait abandonné abruptement en son temps, 2 jours plus tard. Le mariage a lieu et est célébré en chambre dans un petit cercle amical. Il avait pris conscience d'une imminence, d'une urgence. Ce qu'il avait reporté quand il était en bonne santé, il voulait l'accomplir. 3 semaines plus tard, il est décédé. À nouveau, on jaillit quelques questions pour moi, notamment celle-ci, la fin de vie. Est-ce la fin de tout ? Y a-t-il un espace pour vivre une densité, une richesse, des instants suspendus dans le temps, essentiels ? J'aimerais, à partir de ces questions, partager avec vous quelques éléments de réflexion. Bernard a déjà introduit un peu la manière dont la fin de vie et les soins palliatifs peuvent être perçus dans notre société. J'aimerais dire pour ma part que notre société actuelle, et vous le savez vous aussi, a tendance à confiner la fin de vie dans un espace réduit, aseptisé, loin de la vue de tous, à l'écart. On meurt à l'écart. L'idéal de l'humain, en pleine possession de ses moyens, productif, efficace et utile à la société, est fracturé, émietté par l'image de la maladie, de la vulnérabilité, c'est-à-dire cette susceptibilité d'être blessant, d'être blessé. Elle est pulvérisée par l'impuissance. De même, le mythe de la médecine toute-puissante, nous permettant d'accéder aux rêves de la vie éternelle, s'évanouit quand on parle de soins palliatifs. Alors je me demande quels peuvent être les éléments, parmi d'autres certainement, qui mènent à ce constat. Un premier élément me semble être celui du refus de considérer la mort comme faisant partie intégrante de la vie, et Bernard l'a dit tout à l'heure. Je crois que son déni, la volonté de l'écarter, de l'ignorer, sont des éléments essentiels. D'autre part, je nommerai aussi quelque chose qui nous habite quand on évoque la mort, et je dirais peut-être que le nombre de personnes qui sont dans la salle actuellement est peut-être une illustration. Bon, je ne veux pas surinterpréter les choses, mais voilà. Je pense que la peur est bien présente. Tout d'abord, la peur de souffrir, effectivement, la peur de l'agonie. Et avec Paul Ricoeur, qui lui-même, en fin de vie, a écrit ce livre « Vivant jusqu'à la mort », déclare « C'est l'anticipation de l'agonie qui est le noyau concret de la peur de la mort. » Peut-être qu'une autre peur peut être celle d'être un poids pour les proches ou pour la société. Il y a aussi la peur de la dépendance, bien sûr, due à la perte d'autonomie, à la démaîtrise. Et peut-être encore une autre peur, celle de la solitude et de l'abandon. La fin de vie nous expose en effet à des réalités inouïes, inédites. C'est un état de crise, aigu, de rupture. Même si la médecine a fait beaucoup de progrès dans la prise en charge des patients en fin de vie, il n'en reste pas moins que cette expérience est douloureuse et convoque tout notre être. Ce temps de la fin de vie est un temps de crise physique, du fait de la maladie et de ses conséquences, mais aussi un temps de crise psychologique, à cause des pertes, de la perte d'identité notamment, de l'angoisse, du processus de deuil qui se met en route, et aussi un temps de crise spirituelle, où est interrogée la question du sens de la vie, de l'épreuve, de la souffrance, de la mort. Et toute cette situation de crise est mise en lumière par, ou met plutôt en lumière, notre condition d'humain, de vulnérable. Cette condition où nous sommes susceptibles d'être blessés au plus profond de nous-mêmes. Dans ce tableau de clair-obscur se dessine cependant un chemin, à mon sens. Alors, s'agit-il d'une impasse où tout jusqu'à la mort est rigoureusement maîtrisé, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, ou s'agit-il d'un nouveau chemin ouvert, différent? Dans ce compagnonnage où la confiance naissante nous réunit, le patient et moi pouvons aller à la quête de notre pain. Pain relationnel, affectif et spirituel. C'est en fait le sens du mot accompagnement. Manger le pain ensemble. Il s'offre à la personne en fin de vie, je crois, une croisée où plusieurs attitudes sont possibles. Nous l'avons évoqué tout à l'heure par rapport au choix euthanasie ou laisser la personne vivre ses derniers instants. Je crois qu'il y a aussi une attitude fondamentale de la part du patient, soit celle de retenir, de contrôler, ou bien alors celle de laisser aller, celle de l'accueil simple et vrai de ce qui peut advenir, celle du lâcher prise en somme. Ce serait pour moi le chemin de tous les possibles. Et il m'appartient en tant qu'aumônier d'accompagner aussi ce cheminement-là, tel un funambule sur un fil délicat. Chemin difficile et chaotique, c'est certain. Il peut pourtant mener à la rencontre avec un grand R. La rencontre avec soi-même, la rencontre de l'autre et la rencontre de Dieu. Ce Dieu de grâce et sur la trace duquel Martin Luther nous a amenés et pour lequel nous célébrons la réforme à partir d'aujourd'hui, par exemple. Pour finir, je dirais que sur cette toile, sur ce tableau en clair-obscur, c'est là que je conçois mon rôle d'aumônier et d'accompagnante, m'offrant en tant que personne présente, ouverte, sensible, à chaque pas hésitant que tente la personne en fin de vie. Lorsque le lâcher-prise est possible, je deviens le témoin émerveillé d'une naissance de la personne à elle-même, tel M. J qui se découvre des ressources insoupçonnées. J'assiste parfois à une conversion, à un réel demi-tour vers l'essentiel du patient, sa vérité, ce qui fait sens pour lui. Dans cette présence à l'autre, tantôt sage-femme, tantôt dans une écoute active mais plus retenue, j'accompagne un mouvement de pardon, de réconciliation, comme ce patient qui se disait dans ses derniers jours heureux depuis sa maladie, ayant redécouvert sa foi et renoué son lien à sa mère. D'autres fois, je suis témoin de décisions fortes, comme le mariage de M. T, d'un projet d'écriture, par exemple, ou d'une volonté de laisser un héritage particulier, tel ce patient qui prépare une boîte dans laquelle il met des objets symboliques à l'attention de sa descendance. Sur ce chemin des possibles, lorsque la rencontre avec un grand R se fait, j'assiste à un nouveau développement relationnel, à la création d'un nouveau tissu social, là où il pouvait y avoir précédemment de l'enfermement et de la solitude. Je pense notamment à des gens qui étaient complètement reculés de toute relation sociale. Accompagner la personne en fin de vie, et je pourrais aussi écrire fin, F-I-M, est pour moi une aventure de vie exigeante, qui me demande une réelle présence à moi-même, tout en offrant ma présence à l'autre. Ceci est rendu possible par un travail constant sur moi-même, en supervision et en lien avec l'équipe soignante, bien sûr. J'ai pu découvrir par les malades, telle une disciple au pied du maître, mes vraies priorités dans la vie. Et surtout dans la mienne, m'interroger sur ma propre finitude et vivre des instants d'éternité. J'ai pu découvrir qu'au cœur de l'impuissance, une fois accueillie, consentie, elle peut être fécondée par la naissance à soi-même, le rendez-vous avec ses essentiels, par la rencontre. Et je voudrais rendre hommage ici à toutes ces personnes que j'ai pu accompagner et qui m'ont permis de découvrir cela pour moi et pour tous ceux qui ont pu le découvrir aussi avec eux. Et pour finir, j'aimerais vous laisser une citation d'Etty Hillesum dans son ouvrage « Une vie bouleversée ». Elle dit ceci. « En excluant la mort de la vie, on se prive d'une vie complète. Et en l'y accueillant, on élargit et on enrichit sa vie. » Je vous remercie de votre attention.
Merci Pascal. Voilà, mesdames et messieurs, je ne doute pas que vous aurez plein de questions à poser. Vous êtes peut-être d'accord ou peut-être pas d'accord. Nous sommes en dissensus peut-être, comme ce qui nous a été dit avant d'arriver à un consensus éventuel. La parole est à qui veut la prendre. Je vous apporterai le micro, si vous voulez bien dire qui vous êtes et à qui s'adresse votre question.
Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Mouillera et je m'adresse à vous deux et puis à tout le monde évidemment. Alors, puisque vous nous avez parlé d'exemples précis, enfin d'exemples personnels de le monsieur là, qui est sclérosé en plaques, ou les trois témoignages dont vous nous avez parlé, madame, pour illustrer votre propos et votre intention, moi je vais vous parler d'un exemple très personnel qui vient de m'arriver. Ma mère est décédée il y a un peu plus d'un mois, après 5 semaines passées à l'hôpital, suite à un triple AVC. Elle s'est retrouvée dès le lendemain de son accident vasculaire hémiplégique droite et aphasique, mais consciente, enfin, consciente par moment. C'est-à-dire, pour faire simple, elle était complètement paralysée, elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus s'exprimer. Et elle en était malheureusement consciente, elle était donc un peu prisonnière de son corps, si on peut dire. Ce constat, enfin ce diagnostic, je ne sais pas comment on dit ça, je ne suis pas médecin, les médecins nous l'ont fait dès le lendemain, ils nous ont dit que c'était irrémédiable, qu'il n'y aurait plus moyen de revenir parce que l'AVC avait été trop fort et peut-être pris trop tard, enfin bon, pris en charge trop tard, etc. Ce qui fait que nous sommes retrouvés, j'ai deux frères, face à notre mère, dans cet état-là, dont on savait, en la connaissant bien sûr, qu'elle nous avait déjà dit qu'elle ne supporterait pas ce genre de situation et qu'elle souhaitait mourir depuis un certain temps parce qu'elle avait perdu goût à la vie. On s'est retrouvés donc face à ce constat fait par le médecin qui nous dit de toute façon, il n'y aura pas de progrès possible, elle restera comme ça jusqu'à la fin. Nous étions, très loin de toute réflexion sur la fin de vie. Hein. Ça nous est tombé dessus très violemment, et comme vous pouvez l'imaginer. Et on s'est retrouvé face à un corps médical qui... excusez-moi. Devant ça, nous sommes concertés, les trois frères, et nous avons bien convenu ensemble qu'on ne pouvait... espérer pour notre mère qu'une fin rapide, parce qu'il n'y avait plus d'espoir, c'était même pas nous qui le disions, enfin nous on le constatait bien sûr, c'est les médecins eux-mêmes qui le disaient. Et d'autre part, donc nous étions d'accord et nous l'avons fait savoir aux médecins en leur demandant, bah, écoutez, puisque la loi prévoit cette disposition, essayez d'avoir... donner une sédation à notre mère pour qu'au moins elle ne se rende pas compte de son état. Parce que nous avons constaté, nous, plusieurs fois, à plusieurs reprises, la détresse dans laquelle elle était. Même si, apparemment, l'équipe médicale ne voulait pas le voir. Et donc, ça a duré 5 semaines comme ça, jusqu'à ce que... Alors, elle a fait une insuffisance respiratoire plus tard qui a fait qu'ils l'ont mise sous morphine et petit à petit, elle est partie. Moi, j'ai adressé une lettre aux médecins en leur disant... En essayant de la faire prendre conscience de l'état de la personne qui était ma mère dans cette chambre, où elle ne pouvait plus rien faire d'autre que de subir ce qui lui arrivait. Je leur ai dit, mais est-ce que vous avez conscience que dans un cas comme celui-là, il ne peut plus y avoir goût à la vie. Enfin, c'est impossible qu'une personne puisse continuer à avoir goût à la vie comme dans une telle situation. Il n'y a plus rien, alors que c'était une personne qui avait un goût à la vie certain autrefois. Donc, vous invoquez tous les deux Dieu, vous invoquez tous les deux la responsabilité de donner la mort ou de ne pas la donner. Et je suis frappé en particulier par vous, monsieur, on a l'impression que vous défendez votre précaré. Les soins palliatifs, oui, et rien d'autre, et que vous opposez ça à l'euthanasie, je ne comprends pas pourquoi. Bon, je vous pose la question, et j'ai vraiment eu l'impression que le corps médical, alors c'est évidemment pas qu'au corps médical de faire face à cette question, on ne peut pas laisser les médecins tout seuls face à une question pareille, donc c'est un débat de société qu'il faut qu'on ait, mais je ne pense pas qu'on puisse, dans certains cas, écarter l'euthanasie aussi fermement que vous le faites, monsieur, et peut-être madame aussi. Voilà.
Ok, j'essaie de répondre. Je l'ai dit d'emblée, c'est pas parce que moi je suis contre l'euthanasie qu'on n'a pas le droit d'être pour l'euthanasie. Chacun choisit sans problème, ça me pose aucun problème. Mais on ne peut pas imposer à un médecin de soins palliatifs de faire de l'euthanasie. D'abord, c'est illégal complètement. Et de toute façon, les gens qui vont faire de l'euthanasie ne viennent pas chez nous. Alors, ce qui est très rigolo, je m'excuse, le mot n'est peut-être pas juste, mais on a chez nous des gens, des malades qui viennent chez nous, par exemple, et qui sont adhérents de l'ADMD. L'ADMD, c'est l'Association pour le droit de mourir de la dignité, mais sous ce vocable, en fait, ce sont des gens qui sont pour l'euthanasie active. Hein. Et je suis très étonné d'avoir accueilli plus d'une fois des gens de l'ADMD dans mon service. alors qu'ils étaient pro-euthanasie complète, et qu'une fois qu'on écoutait justement leurs souffrances, qu'on les accueillait, etc., on était étonné de voir qu'ils réclamaient jamais l'euthanasie, et qu'en fait, ils mouraient bien sûr, parce qu'on ne les retient pas, etc. Mais donc ça, c'est des questionnements. Après, dans ce que vous dites, moi, je défends mon précaré, ben, bien sûr, comme ceux qui font l'euthanasie, bien sûr qu'il faut prendre position, mais je ne vous impose rien, moi, je veux dire, vous faites vos choix, et vous allez où vous voulez, ça ne me pose aucun souci. Par contre, vous ne pouvez pas imposer à des médecins palliatologues de faire l'euthanasie, ça vous pouvez pas. Ça c'est une chose. Après, moi j'ai beaucoup, contrairement à l'aspect un peu bourrin que je peux donner, j'ai beaucoup de doutes, hein, et je me questionne beaucoup. Et justement, je pourrais très bien dire quand un malade vient de la DMD, mais qu'est-ce que vous venez faire chez nous, etc. Non, je pense que les gens de la DMD qui viennent chez nous sont des gens en grande souffrance, et que justement c'est des gens qui souffrent peut-être encore plus que d'autres, et que je dois accueillir cette souffrance, et que je ne vais pas la résumer à 5 ampoules de chlorure de potassium pour prouver le décès. Je vais essayer d'entendre, de comprendre, d'accompagner. Et ce qui est marrant, c'est que justement les gens, bien sûr, qui vont mourir à un moment donné, mais il faut leur laisser cette chance de réconciliation. Réconciliation avec eux-mêmes, réconciliation avec leur famille, réconciliation avec Dieu, Yahvé, Allah, vous l'appelez comme vous voulez, etc. Et ce temps est nécessaire. Souvent, les gens vous disent aussi, mais à quoi ça sert de prolonger? D'abord, en soins palliatifs, on ne prolonge pas. C'est l'acharnement qui prolonge. Mais ce temps, j'ai moins pu constater qu'il est nécessaire aussi à la famille pour se préparer. Le malade, nous, on ne le retient pas. Quand il veut décéder, il décède, il lâche prise. On ne va pas s'y opposer du tout. On ne va pas prolonger, on ne va pas raccourcir. On va laisser faire la nature, entre guillemets. Mais on s'est rendu compte combien ce temps était important pour la préparation aussi des gens qui allaient être en deuil après. Hein. De raccourcir ce temps, effectivement, nous, notre expérience, c'est que ce temps est un cadeau offert pour se préparer, etc. Après, de dire aussi que, par exemple, il n'y avait plus rien à espérer. Mais alors, à ce moment-là, les malades handicapés, ils ne vont pas récupérer. Alors, pourquoi on les laisse vivre, les chômeurs, les immigrés, enfin, tout peut y passer, comme le disait Rostand. Hein. Donc, je ne me permettrai pas de juger que quelqu'un n'est plus digne de vivre ou que je ne peux pas me le permettre. Même si je suis carré, justement, là-dessus, je ne suis pas du tout. Je laisse chacun vivre ce qu'il a à vivre, effectivement, et je ne m'immisce pas du tout dans le temps qui lui est donné ou pas. Bon. Nous, on essaye de reconnaître dans les malades qui arrivent chez nous toujours un être humain et d'essayer de lui offrir, effectivement, d'abord le repos, je dirais physique, parce qu'il y a encore aujourd'hui des souffrances, même physiques, qui ne sont pas bien prises en charge. Donc ça, c'est dommage, parce qu'on sait faire. Et puis après, il y a toutes les souffrances dont je vous ai parlé. Hein, notamment la souffrance des accompagnants, la souffrance de la famille. Nous, notre travail, il est souvent plus avec les familles qu'avec le malade. On a la chance dans les unités de soins palliatifs d'avoir du temps, et donc on peut offrir ce temps. Et on passe des heures avec les familles, justement, pour les écouter, les entendre, les accompagner. On a des équipes aussi pluridisciplinaires pour le faire, avec des assistantes sociales, des psychologues, etc. Voilà. Maintenant, moi, je ne dis pas que j'ai raison. Hein. Je dis, voilà ce qu'on offre, et puis on peut tout à fait être opposé à ça. Ça ne me pose pas de souci. Je n'ai pas à imposer quelque chose. Ouais.
D'autres questions?
Bonjour. Excusez-moi, je suis arrivé un petit peu en retard tout à l'heure. Est-ce que l'association Oxycodone et Hypnovel, c'est à proscrire ou est-ce que c'est normal?
Alors, je vais répondre de façon très brève. Ce sont deux médicaments, si vous voulez, pour faire grand public, on va dire, c'est de la morphine et un calmant, si vous voulez. Hein. Quand on parle morphine, Hypnovel, c'est ça. Non, ce n'est pas du tout à proscrire. Ce que je disais, et là on va retrouver ça très bien, qu'est-ce que je fais quand je mets de la morphine? À quelle dose je la mets? Pourquoi je la mets? Si mon intention est de soulager, ça ne me pose pas de problème. Si mon intention, c'est d'utiliser ces produits pour endormir le malade et provoquer le décès, alors je ne suis plus dans le même registre. Donc ce n'est pas la morphine qui est mauvaise, ce n'est pas l'hypnovel qui est mauvais, c'est qu'est-ce que j'en fais et comment je l'utilise. Si je l'utilise pour soulager les souffrances d'un patient, alors ça ne me pose aucun souci. Hein. Par contre, maintenant, comme je ne sais pas à quelle heure vous êtes arrivé, mais je disais qu'il ne fallait pas que nos unités de soins palliatifs deviennent des unités de soins sédatifs. Il n'est pas question d'endormir tout le monde, il est question de permettre à chacun de vivre sa fin de vie le plus confortablement possible. Donc, en résumé, moi, je n'ai rien contre morphine hypnovel, j'en prescris tous les jours, mais toujours dans l'intention de soulager, jamais dans l'intention de provoquer le décès. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Comment on peut savoir? On a des outils pour ça. Comment on peut mesurer la glycémie avec un glucomètre? Comment on peut mesurer la température? On a aussi des outils pour mesurer, effectivement, la douleur, par exemple, l'anxiété, la dépression. On ne travaille jamais seul. C'est jamais un médecin qui décide. C'est une équipe. Donc, je veux dire, on a l'éclairage, bien sûr, du malade, quand il peut le dire, de la famille, des soignants, ça peut être l'aumônier, l'assistante sociale, le psychologue. Tout ce monde va se mettre ensemble, va donner des éclairages. Si vous avez une statue avec un spot qui l'éclaire par devant, vous allez voir qu'un aspect de la statue. Si vous mettez des spots sur les côtés, il y a de nouvelles choses. Si vous en mettez derrière, au-dessus, encore de nouvelles. Donc, il ne faut surtout pas que ce soit un médecin, pas plus d'ailleurs qu'un aumônier, qu'une psychologue qui décide, mais que ce soit une équipe formée, compétente, utilisant des outils validés. Vous voyez, ça, ce n'est pas du bricolage, des soins palliatifs. Et puis alors, ce qui est vrai aujourd'hui n'est peut-être plus vrai demain. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas dans un petit A, petit B, petit 1, petit 2, mais dans une perpétuelle remise en question et réadaptation jusqu'à ce que le décès arrive. Ce n'est pas quelque chose de carré, c'est quelque chose à composer, justement, tout le temps.
Entre autres, oui. Les deux dernières questions.
Bonjour, Madame Amambassois. En fait, ce n'est pas une question, est-ce que vous pouvez reprendre la dernière phrase que vous avez, nous avez dictée, parce que vie bouleversante, j'en ai pris que la moitié. C'est très intéressant.
Eh ben, vous pouvez consulter cette phrase dans le livre de Eti Hillezoom, qui a écrit, voilà, Eti E-D-E-T-Y, Hillezoom, c'est une dame d'origine néerlandaise, et qui a écrit un livre qui s'appelle Une vie bouleversée.
E-T-E-T-Y.
Voilà. Je vous recommande le livre chaudement.
Une dernière question.
Bonjour. Est-ce que la réflexion sur que vous menez dans les unités de soins palliatifs est-elle aussi menée dans les EHPAD, ou est-ce qu'elles arrivent jusque dans les EHPAD, ou comment est-ce qu'elles peuvent arriver jusque dans les EHPAD, dans les équipes soignantes?
Alors, c'est tout le problème de l'accessibilité aux soins palliatifs. Effectivement, tout malade ne relève pas d'une unité de soins palliatifs, heureusement. Et l'idée, ce serait qu'il y ait une accessibilité partout, à domicile, en EHPAD, en maison de retraite, en CHU, dans la Creuse, dans la Meuse, comme à Strasbourg. C'est ça l'idéal. Le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on n'est qu'à la moitié du chemin. Donc aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup sur les EHPAD, justement, mais il ne faut pas être quand même... Enfin, je veux dire, il y a quelque chose encore de malhonnête dans cette histoire. De dire que tout le monde va avoir accès aux soins palliatifs parce qu'on est formé en soins palliatifs, etc., à mon avis, c'est un leurre politique, c'est faux. Moi, je vois dans les EHPAD du blanc, du gris et du noir. Je vois surtout qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Je vois surtout que les soignants, on leur dit on va vous former avec 2 jours de formation continue. On estime qu'ils sont formés, ce qui est débile. Ils ne sont pas formés, ils sont tout juste sensibilisés. Et avec tout ça, on veut nous faire croire que, quand on comptabilise les lits, on nous dit qu'il y a 6000 lits de soins palliatifs en France. Sauf qu'il y en a 5000 en lits identifiés. Et puis qu'il n'y en a pas beaucoup en unité de soins palliatifs, et ce n'est pas du tout la même chose. Alors, l'objectif d'amener les soins palliatifs partout est tout à fait noble. Bien sûr qu'on aimerait bien que chaque personne, là où elle est et là où elle souhaite décéder, puisse avoir des soins palliatifs. On n'y est pas aujourd'hui, et donc il faut avoir l'honnêteté de le dire, il faut essayer de changer les choses, mais est-ce que notre société fait ce choix-là? Je l'ai rappelé avec Marisol Touraine et puis les phrases du début. Quand les gens se posent la question, est-ce que les patients déments, c'est vraiment intéressant de s'en occuper, des prolongés entre guillemets, etc. Si c'est ça nos politiques, etc., on voit bien que ça va dans le sens inverse. Ceci étant, je connais des très belles expériences de soins palliatifs en EHPAD aussi. Ça ne demande pas forcément les mêmes moyens. Quand vous êtes en EHPAD, vous avez de temps en temps un décès. En unité de soins palliatifs, c'est tous les jours, etc. Avec des situations complexes. On n'a pas besoin des mêmes moyens en EHPAD qu'on a besoin en unité de soins palliatifs. Il faut simplement que les gens aient une formation initiale qui est en train de s'améliorer, continue aussi, et qu'ils appellent aussi les équipes mobiles, les HAD, les hôpitaux sur domicile, etc. Mais ça va être plus facile à Strasbourg qu'effectivement au fin fond de la Meuse ou de la Creuse, on est d'accord. Donc aujourd'hui, l'accessibilité, comme je vous l'ai dit, il y a du blanc, du gris et du noir. Il y a le meilleur, le pire, le moins bon, etc. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, c'est ça que je retiendrai quand même, que tout le monde a accès aux soins palliatifs. Donc, notre objectif, c'est d'avancer. Je ne veux pas non plus mettre tout dans le plateau noir. Parce que si je fais la photographie des soins palliatifs il y a 30 ans, il n'y avait quasiment rien en France. Donc on a quand même aussi fait du chemin, ça évolue, etc. Mais on est loin du compte quand même. Ouais. Après, il y a des autres choix de société. Est-ce que notre société doit mettre l'argent dans la réanimation, dans les protocoles qui coûtent la peau des fesses pour allonger 3 jours, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à faire plus sur l'acharnement? Parce que s'il y avait moins d'acharnement, il y aurait plus de soins palliatifs aussi. Mais ça, c'est des questions profondes de société.
Voilà, nous sommes arrivés au terme donc, de notre après-midi. Je vous propose que nous applaudissions encore une fois chaleureusement nos intervenants. Voilà, il me reste à vous remercier d'être venus et à vous souhaiter encore une bonne soirée à tous. Merci.